Ségolène Royal n'a qu'un seul défaut, c'est son compagnon.
Je pensais vous faire rire.
Arnaud Montebourg sur le plateau du Grand Journal, c'était le 17 janvier 2007, il était porte-parole de la candidate à la présidentielle à ce moment-là. C'est une des rares fois où on a vu Michel Denisot rester sans voix l'espace de quelques secondes. Montebourg va quitter ses fonctions ensuite. Le Grand Journal a 20 ans et son présentateur culte, qui a quasiment le même âge, est avec nous cet après-midi. Bonjour Michel Denisot.
Bonjour Mathieu.
Merci d'être avec nous cet après-midi Michel. Vous êtes une des rares personnalités qu'on n'a pas besoin de présenter, c'est très confortable pour un animateur. Michel Denisot, tout le monde voit. Pas plus tard que tout à l'heure, Manon Mariani me disait encore que vous étiez iconique, c'est son mot préféré. Journaliste, animateur, producteur, ancien dirigeant du Paris Saint-Germain et de la Berrichonne de Châteauroux. Mais c'est surtout de télé dont on va parler avec vous cet après-midi, Michel, les 20 ans du Grand Journal. On est le 30 août 2004. Est-ce que vous vous souvenez du premier invité ?
Gad Elmaleh.
Gad Elmaleh au sommet de sa gloire.
Oui, oui, et nous on débutait.
Vous étiez intimidé.
Je me souviens de sa première vanne, il est arrivé. Ouais. Au premier jour, on démarre une émission, on ne sait pas où on va, évidemment, et il dit « je suis venu parce que j'ai regardé hier, c'était bien
voilà. ». C'était une bonne vanne pour commencer.
Ah bah, c'est son métier.
Et là, et là, c'était lancé.
Voilà.
Toute première fois, c'est aussi le titre de votre dernier livre, Michel. Ils ont tous commencé sur Canal, ce qui est vrai, qui vient de paraître chez Flammarion, on va en parler, d'autant que c'est les 20 ans du Grand Journal et les 40 ans de Canal. Mais c'est toute l'année 2004 qu'on va revivre ensemble cet après-midi, en politique, en sport, en cinéma et bien évidemment en musique, puisque 2004 pour la musique, c'est comme 1982 pour les vins de Bordeaux, c'est le cru du siècle, avec notamment... Je peux vous dire, Michel, il y a la pécho là-dessus. Zoom zoom back à l'âge d'or du R&B français, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, si vous nous rejoignez, nous sommes vendredi et donc Zoom Zoom Zen arrête de décrypter des mots dans l'air du temps, qui parfois d'ailleurs sont moyennement dans l'air du temps, sachant que l'autre jour on a quand même fait les agences matrimoniales. Non, le vendredi, vous le savez, on passe en mode Zoom Zoom Back. Aujourd'hui, direction 2004, notre invité Michel Denisot lançait le Grand Journal en utilisant la musique de Stevie Wonder sans se soucier de savoir si Canal avait bien demandé les droits. Il s'en foutait pas mal, Michel, puisque Stevie Wonder, de toute façon, c'est un pote, c'est certainement même le parrain de son fils, à moins que ce soit Paul McCartney. Oui, le pape du showbiz français est avec nous cet après-midi pour remonter en 2004. Michel, on va parler du Grand Journal, de Canal, mais aussi politique, musique, cinéma et même économie, puisqu'en 2004, Quentin, lui, notre mini-Trump de Zoom Zoom Zen, ratait le virage qui aurait pu faire de lui un multimilliardaire en lançant la tasse qui fait le bruit des cigales quand on boit, Lou Cigalou, alors qu'au même moment, à Harvard, Mark Zuckerberg lançait Facebook, un business qui devait un peu mieux marcher.
Chacun son truc. Zoom Zoom Zen. Mathieu Noël.
Que reste-t-il aujourd'hui de 2004? On en parle avec vous, Michel Denisot. Juste le temps de vous présenter ma petite équipe. Normalement, un visage devrait vous être familier. Non?
Oui.
Non, oui.
Oui.
Regardez bien cette jeune femme qui était encore plus jeune à l'époque où elle était stagiaire chez vous au Grand Journal.
Comme nous.
Mais oui, oui, comme nous tous. Oui, bien sûr. Vous vous souvenez d'elle tout de suite en entrant dans ce studio. Vous vous êtes dit, tiens, c'est la Marianoche. Dieu que ces retrouvailles sont émouvantes. Manon Mariani, avant de prendre votre envol à l'antenne, vous avez œuvré dans les coulisses du Grand Journal.
Oui, oui, oui.
À part Michel, c'est qui la plus grande star que vous avez croisée?
C'était fou. Katy Perry, Lana Del Rey. Non, mais moi j'étais
vraiment...
dingue. J'avais 20 ans à l'époque. C'était fou.
Vous étiez là.
C'était un de mes meilleurs stages.
Au cœur du réacteur.
Oui, oui.
Chaque vendredi, Manon, vous nous racontez l'histoire d'une première fois.
2004 a été une année révolutionnaire pour les réseaux sociaux. Vous l'avez dit, c'est à ce moment-là qu'un certain Mark Zuckerberg a mis en ligne pour la première fois un site appelé The Facebook.
The Facebook, c'est vrai qu'ils ont enlevé.
On l'a reçu.
Mais non, Michel, vous avez reçu tout le monde.
Non, mais on l'a reçu, mais il n'était pas très connu. Je me souviens qu'il y avait Jacques Lang à côté de lui, qui ne savait pas qui c'était, qu'il prenait un peu comme ça.
De haut, parce qu'il devait être en t-shirt en plus, donc Jacques Lang, c'est dit la famille de cravate, qui sait ce nom. Face à vous, Michel, il n'a jamais compris pourquoi, à génie entrepreneurial équivalent, Mark Zuckerberg était devenu multimilliardaire et lui, intermittent du spectacle. Aigri par l'échec de Lou Cigalou, jaloux du succès de Facebook, il a voulu oublier 2004, mais voilà, aujourd'hui il a dû s'y replonger. Quentin, vous avez fait votre pèlerinage hebdomadaire à l'INA?
Un tsunami le lendemain de Noël, Noël ma mère qui célèbre le premier mariage gay non autorisé par la loi, et la loi justement qui interdit désormais le port du voile à l'école publique. Je vais vous rafraîchir la mémoire de 2004 avec quelques archives.
Tout à l'heure, nous serons rejoints par deux autres énergumènes, Charles Nouveau et Thomas Croisière, qui nous fera replonger en 2004 côté cinéma. Mais on l'a dit, 2004, c'est d'abord vous, Michel. Puisqu'on fête les 20 ans du Grand Journal, occasion idéale pour sortir un livre sur les 40 ans de Canal+, toute première fois chez Flammarion. Michel, on va commencer par cette prodigieuse innovation. la présence d'animateurs en 3D qui posaient des questions en direct aux invités. Je parle d'innovation pour être gentil, mais on peut le dire, 20 ans plus tard, c'était pas la meilleure idée du grand journal.
C'était, on croyait avoir l'idée du siècle, c'était le ratage du siècle.
Ça a duré combien de temps ?
Une saison, je crois. Ouais.
Ah oui, vous voulez quand même...
Vous savez, parfois on démarre quelque chose, ça marche pas tout de suite. Le grand journal n'a pas marché tout de suite. La première année, ça marchait pas. Et puis la chaîne nous a laissé du temps, donc ce qui fait qu'après, la vie a changé. Mais on croyait avoir découvert un truc formidable avec des personnages en 3D qui posaient des questions aux invités, et c'était pas ça du tout, quoi.
C'était quoi la généalogie du grand journal ? Aujourd'hui, c'est une émission iconique, comme on dit. Mais comment elle a été créée ? C'est vous qui l'avez pensée ? C'est des gens qui sont venus vous chercher ?
Leclerc était depuis La Reine nulle part ailleurs, qui commençait à dater. Donc Leclerc n'avait pas retrouvé d'identité. Et moi, j'étais dans une phase de quitter Canal+. J'ai quitté Canal+. J'étais licencié de Canal+, même exactement, à cette époque-là. Et donc, j'ai dit, OK, j'ai 20 ans d'ancienneté. J'ai pas pris d'avocat. J'ai pas demandé de choses formidables. J'ai dit, j'aimerais simplement, on se quitte, mais j'aimerais continuer et faire une émission le soir. Et donc, Rodolphe Belmer m'a dit, d'accord. Donc, j'ai trouvé cette idée de grand journal. J'avais mis grand, surtout, depuis La Grande Famille. Quand j'avais créé,
c'est malin, ça.
Au début, j'avais mis la famille et Alain de Greffe m'avait dit, ah, c'est moyen. J'ai dit, La Grande Famille, il me dit, c'est beaucoup mieux.
Là, vous avez dit le journal et vous avez dit
le grand journal. J'ai fait quand j'étais patron des sports, le grand match. J'ai mis grand partout, ça mange pas de pain. Et voilà. Donc, j'ai mis le grand journal. Et en fait, le concept était, tout le monde peut le trouver, c'est des gens autour d'une table avec un micro et des caméras. Après, ça dépend qui on met autour de la table et comment ça fonctionne et comment c'est produit.
Ouais. Évidemment. C'est vrai, cette histoire de Stevie Wonder, vous avez emprunté le.
Oui,
le
morceau oui. Alors, Mathieu l'a bien dit, on a un peu dérobé.
Ah ouais.
En fait,
je
pense que la production n'a jamais payé de droit parce qu'il y a une note de différence.
Oui, et ça fait toute la différence, justement, pour ne pas payer la SACEM.
Vous parlez des chroniqueurs, c'était quand même l'esprit de bande aussi, le grand journal. Comment vous les avez castés ?
Alors, il y a des gens qui racontent, d'ailleurs, dans le bouquin, Christelle Graillot, Ariel Saraco, qui sont des gens qui ne sont pas connus du grand public, mais qui sont des chasseurs de talent, des chasseuses de talent, et qui ont trouvé beaucoup de monde qui sont venus sur le grand journal, les filles de la météo, etc. Et puis il y a des gens qui avaient envie de venir. Voilà, donc j'ai fait ce travail avec Renaud Levenquim et Laurent Bon. On fonctionnait à trois pour produire cette émission.
Je dirais qu'avec le recul, aujourd'hui, on va fêter les 40 ans de Canal, il y a deux émissions qui restent début de soirée. Il y a Nulle part ailleurs et Le Grand Journal. Historiquement, est-ce que quand vous avez fait Le Grand Journal, c'était pour renouer avec l'esprit nulle part ailleurs, ou au contraire, vous en démarquez?
Il vaut mieux quand on crée quelque chose, ne pas prendre la succession de quelque chose qui a trop de succès, parce que c'est compliqué. Là, c'était la ruine, donc on avait une chance de remonter la mécanique, et ça s'est bien fait comme ça.
On l'oublie, mais Le Grand Journal ne durait que 50 minutes lors de la première saison. Vous étiez en fait la rampe de lancement de Stéphane Bern.
C'est une façon de parler.
Pas très élégante de le dire.
Comment vous avez réussi à récupérer la case de Stéphane Bern à partir de la deuxième saison?
On a tué personne. Voilà, donc ça s'est fait, je pense, assez naturellement, sans victime.
Ça, il est très sympa, Stéphane.
Vous n'avez pas saffonné un peu la planche?
Ah non.
Oh, c'est pas le genre de Michel.
C'est juste que ça marchait pas, en fait. C'était quoi? C'était 20 heures dispétantes, c'est ça?
20 heures dispétantes, ça marchait pas?
Non, mais c'est une question. Il n'y avait pas d'audience.
Je pense que ça ne correspondait peut-être pas à l'identité de la chaîne, plutôt qu'au moment de la presse.
Le Grand Journal, 20 ans déjà, on continue d'en parler avec Michel Denisot dans Zoom Zoom Back spécial 2004, juste après un titre de cette année-là. Tiens, je me demande vraiment qui l'a choisi. Vertigo, U2 sur Inter.
Ah, bien.
Swing into the music. Oh, 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 oh.
Monsieur Noël.
Zoom Zoom Back en 2004, aujourd'hui avec le lancement du grand journal de Canal+, Michel Denisot est notre invité. On vient d'entendre U2. C'est justement au grand journal qu'ils ont fait leur première télé en France. Comment vous les avez convaincus? Hello Bono, it's Michael Denisot.
Ouais, c'est tout, ça suffit.
Ça suffit, ouais. Il savait
en fait,
que vous étiez
pas venu la première année. C'était pas en 2004 qu'il est venu, le titre date de 2004.
Plus tard.
Et il a fallu qu'on s'installe un peu et qu'on ait un peu plus d'audience et de succès, si je puis dire, pour qu'il vienne au grand journal. C'est vrai qu'on a eu des lives. Il y avait une qualité de production aussi, ça compte aussi pour les groupes de cette dimension, comme pour Prince, etc.
Ils ont vu que c'était bien
Beyoncé,
fait.
Beyoncé, ouais, que c'était bien fait. Voilà, c'était techniquement très fort.
La musique était très importante. C'était, il y avait des groupes tous les jours ou une fois par semaine qui venaient jouer.
Pas tous les jours, mais beaucoup. Alors après, il y a pas de calendrier précis, mais il y en avait au moins 3 par semaine. Ouais.
Rayon musique, il y a eu, il faut quand même le rappeler, Prince. Vous avez dit, c'est la première fois qu'on reçoit Dieu. Ça, c'est votre plus gros coup, d'un point de vue personnel, c'est sur vos goûts personnels.
C'est la seule fois où j'ai perdu mes fiches, quoi. Parce que pour moi, c'était l'icône absolue. Et donc, j'ai, au moment de faire l'interview, d'avoir été venu une fois, deux fois sans interview, le premier coup sans dire bonjour, deuxième coup bonjour, et troisième coup interview, et quatrième coup, après, il est venu 4 fois. Donc, il s'y sentait bien, et puis, il était en confiance.
Et j'imagine que c'est pas la même connexion à chaque rencontre avec des artistes de ce calibre-là. Vous nous aviez dit hors antenne que Bono est très sympa, vous avez dîné avec lui après.
Oui.
Mais, par exemple, Prince, il vous emmenait dîner, vous emmenait faire la fête,
Mais c'est déjà beaucoup
de venir.
Ce qui était formidable, Prince, c'est que il arrivait à 14h pour 19h et il répétait tout l'après-midi.
Ah, c'est un bosseur.
Et ce qui était formidable aussi, c'était une chance de vivre ça, c'est que tout le groupe autour de lui l'observait tout le temps pour savoir ce qu'il fallait faire, et c'était qu'il savait faire tout ce que les autres devaient faire.
Mais c'est un peu votre méthode, vous tissez des liens. Vous dites une première fois il vient, une deuxième fois il vient. C'est votre marque de fabrique de tisser les liens avec les invités, avec les chroniqueurs?
J'ai appris ça ici à France Inter il y a très très longtemps avec Yves Mourouzi, avec qui j'ai travaillé, j'ai présenté le journal télévisé sur TF1. Et c'est créer du lien avec les gens que l'on reçoit et en restant libre et indépendant, ce qui n'est pas facile. Mais c'est une discipline que j'aime beaucoup.
Vous aviez beaucoup d'invités internationaux, il y en a moins maintenant qui viennent. Comment l'expliquer?
J'y suis pas.
Non, mais
je sais pas, j'y suis pas. J'y suis pas, ça veut dire que j'y suis pas pour vous répondre, quoi.
Mais on dit que vous aviez à l'époque peut-être encore le meilleur répertoire téléphonique du PAF. Vous passiez vous-même des coups de fil pour convaincre les gens de venir?
Pas souvent, mais c'est vrai que je fais partie de rien, je suis membre de rien, donc je vis ma vie et j'ai beaucoup d'autonomie, de liberté et en même temps de connexions qui sont personnelles, donc c'est différent.
Et aujourd'hui, le répertoire, il se porte comment?
Bien, il continue
de... Le plus gros nom du smartphone de Michel Denisot?
Je sèche un peu le plus gros nom. Je sais que c'est quoi le plus gros nom?
Barack
c'est
Obama?
Non,
vous
j'ai
pas. Vous n'avez pas le 06?
Non. Comment?
Vous n'avez pas le 06 de Barack?
Non, mais c'est pas 06.
Je sais, Michel, c'est une blague. Lui, il était ado en 2004 et devant sa télé, il regardait U2 au grand journal en se disant « Un jour, je jouerai moi aussi sur ce plateau avec Intérieur Nuit ». Michel, vous ne vous souvenez pas d'Intérieur Nuit, c'est normal, contrairement à U2, vous ne les avez jamais invités à se produire dans le grand journal. Le talent de Quentin, ça restera une tâche dans votre carrière, Michel. Mais il n'est pas rancunier pour vous. Il a même rembobiné toute l'année 2004.
Le 26 décembre 2004, le 20h de Françoise Laborde sur France 2 s'ouvre avec des images qui vont marquer la décennie.
Catastrophe sans précédent dans tous les pays limitrophes de l'océan Indien. Des raz-de-marée ont ravagé les côtes de l'Asie du Sud-Est, de l'Inde et surtout du Sri Lanka, extrêmement peuplé. Le nombre des victimes dépasserait les 10 000 morts et parmi les victimes, des touristes aussi qui séjournaient dans ces quelques îles paradisiaques.
À 7h58 et 53 secondes, heure locale, un séisme d'une magnitude de 9,2 secoue l'océan. À la surface, une vague se déplace à 800 km/h en direction des côtes. En approchant la Terre, elle atteint même 35 mètres de hauteur. On a tous les images en tête de ce tsunami. Le bilan est terrible, au moins 250 000 morts dans la région. Le 11 mars 2004, Fabrice Drouel ouvre le journal de France Inter avec cette information.
L'enfer à répétition, 4 fois en l'espace de quelques minutes. 4 fois, des bombes ont explosé, l'une dans un train de la gare centrale d'Atocha, à Madrid.
C'était complètement chaotique, les gens par terre, le début de panique, tout ça, c'était incroyable.
10 explosions simultanées dans 4 trains de banlieue de Madrid, dont 2 en gare d'Atocha entre 7h32 et 7h39, l'heure de pointe. 192 victimes et 1858 blessés. En 2004, à la fin de l'été, un feuilleton fait son apparition sur France 3.
Plus belle la vie, c'est à partir de ce soir sur France 3. Chaque soir à 20h20, vous retrouverez vos héros du quartier du Mistral à Marseille. Une fiction quotidienne avec des personnages hauts en couleur.
18 saisons, 4665 épisodes quotidiens. France Télé annonce l'arrêt en 2022, mais en janvier 2024, 20 ans après, TF1 reprend le flambeau avec une suite qui se nomme Plus belle la vie, encore plus belle. Le 24...
Encore plus pourri comme titre.
Le 24 septembre 2004, une disparition.
Bonsoir, la mort d'une grande figure de la littérature française, Françoise Sagan, est décédée ce soir à l'hôpital Domfleur dans le Calvados. Elle a succombé à une embolie pulmonaire, elle avait 69 ans.
Un certain sourire disparaît, elle qui nous avait donné la chamade, et ce matin de septembre 2004, c'est bonjour tristesse. 2004, c'est aussi l'année d'une circulaire politique.
La laïcité à l'école, mode d'emploi. Comme la loi, le projet de circulaire élaboré par le ministère de l'Éducation prévoit l'interdiction des signes religieux ostensibles, comme un voile islamique, une kippa ou une croix de dimension excessive.
Le 15 mars 2004, le gouvernement du président Jacques Chirac fait voter une nouvelle loi sur l'interdiction des signes religieux ostentatoires dans les établissements scolaires publics. 19 ans plus tard, l'abaya fera également l'objet d'une même interdiction à la rentrée scolaire de 2023. C'était le premier combat mené par le jeune ministre de l'Éducation de l'époque, Gabriel Attal. Le 5 juin 2004, un premier mariage homosexuel en France.
Au nom de la loi, je déclare Pierre Jean-Luc Bertrand Charpentier et Pierre Simon Stéphane Chapin unis par le mariage.
Bonjour. Malgré la loi, le premier mariage homosexuel français a été célébré ce matin à Bègles par Noël Mamère, le député maire. Les pros et les anti-mariages étaient là.
L'histoire s'enclenche le soir du 16 janvier 2004. Sébastien Nouchet est victime d'une agression homophobe et brûlé au troisième degré dans les Hauts-de-France. Noël Mamère signe le manifeste pour l'égalité des droits dans le monde dans lequel figure le mariage homosexuel. Malgré les pressions et les menaces, il va jusqu'à dormir dans la mairie la veille pour être certain que personne ne l'empêche d'entrer le jour J. Il faudra attendre encore 9 ans pour que le mariage pour tous soit autorisé en France. Pour terminer, le 10 juin 2004, le monde se réveille attristé.
France Inter. L'Amérique est doublement en deuil aujourd'hui, avec tout d'abord la mort d'une très grande figure du jazz et de la soul music, Ray Charles, qui s'est éteinte à Los Angeles à l'âge de 73 ans. De nombreux artistes américains lui ont rendu hommage.
George. Georgia. Ray Charles et sa déclaration d'amour à la Géorgie qu'il avait dû fuir pour la Floride. La chanson est devenue un symbole de la lutte contre la ségrégation. En 1979, Georgia on my mind est devenue l'hymne officiel de la Géorgie. Keep Georgia on
my mind. L'histoire finit bien. Merci beaucoup, Quentin, Michel Denisot. Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette année 2004? Est-ce que déjà vous y avez déjà repensé? C'est vrai que nous, chaque vendredi, on revient sur une année, on a oublié la moitié des trucs.
Ouais. Vous vous souvenez j'ai retenu Françoise Sagan, parce qu'il y a une phrase de Françoise Sagan qui colle bien avec le bouquin, qui est « On ne sait pas ce que le passé nous réserve ». Et j'aime beaucoup cette phrase, que je mets souvent, d'ailleurs, quand je dédicace le livre, parce qu'elle va bien avec l'histoire. Voilà, Françoise Sagan, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour tout le monde, mais que j'ai rencontré aussi. C'était toujours des rencontres un peu... j'ai rencontré plusieurs fois, notamment quand je travaillais avec Yves Mourouzi, elle était proche d'Yves, et voilà, c'était des conversations aériennes, elle était très attentionnée, et elle s'intéressait à tout le monde.
Et qui compte encore, 20 ans plus tard, on cite beaucoup François Sagan.
Tout à fait, la preuve.
Est-ce que vous avez la nostalgie, je pense, quelques jours on recevait Thierry Ardisson, qui était nostalgique d'une époque où il avait l'impression en tout cas d'avoir côtoyé des stars d'un tel calibre, d'une telle profondeur, qui trouvait les stars d'aujourd'hui un peu moins intéressantes. Est-ce que vous avez ce même rapport?
Je ne connais pas la nostalgie, mais après on a des souvenirs évidemment, mais effectivement le monde change, et donc j'ai plutôt tendance à m'intéresser à ce qui se passe aujourd'hui et demain. Demain est un mot que j'aime beaucoup, et après effectivement l'approche des célébrités aujourd'hui est différente de ce qu'il a été, parce que le monde a changé, parce qu'il y a beaucoup plus de business autour des célébrités aujourd'hui, c'est plutôt l'argent qui a changé les choses.
Toute première fois, c'est votre livre, Michel. Ils ont tous commencé sur Canal. C'est le sous-titre astucieux. Michel est avec nous pour fêter les 20 ans du Grand Journal. Déjà, on a parlé des invités du Grand Journal qui ont fait son succès. Il faut aussi parler de tous les chroniqueurs qui ont marqué l'émission. Certains ont commencé sur votre plateau, comme Yann Barthès. Est-ce que vous imaginez à ce moment-là qu'un jour, c'est lui qui vous recevrait sur son plateau pour fêter les 20 ans de l'émission.
Non, non, évidemment, mais on sent assez vite chez les beaucoup de gens ont débuté avec moi, de Chavannes a débuté avec moi, Fougiel, de la rue, etc. J'ai pas tous les cités, et donc Yann aussi dans les derniers en date, mais on voit assez vite les gens qui sont obsédés par le travail, quoi. Donc il faut être obsédé par le travail. Vous le savez très bien, vous faites pas tout ce que vous faites tous les jours si vous n'étiez pas un obsédé du travail. Et donc
bien joué Michel. C'est vrai que les
et
deux
donc
sont
c'est vrai qu'il y a Yann comme tous ceux que j'ai cités avant, ont commencé par faire une minute en off, commenter. Ils étaient là le matin à 8h jusqu'à 9h du soir à réécouter ce qu'ils avaient fait, revoir ce qu'ils avaient fait, retravailler. Et c'est quand ça se passe comme ça dès le début, en général, ça va assez loin, quoi. Notre métier, c'est pas uniquement la rigolade. On peut rire quand on a travaillé, mais faut pas rire avant de travailler.
Exact.
Vous Quentin. Dites, je suis vraiment fier de son parcours à Yann Barthès. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous dit ça d'ailleurs?
Bah tous, oui, tous ceux qui sont dans le bouquin ont des parcours. Je suis pas lié à tous personnellement, mais je les connais tous et tous ont des parcours incroyables. Tous ont des parcours improbables. Quoi. Quand on voit l'histoire de Jamel, de Omar ou de Michel Hazanavicius qui a démarré à Canal en détournant des images pour des programmes quasi confidentiels et puis qui a eu 5 Oscars après. Donc c'est des histoires magnifiques. Quoi. Donc je pense que c'est un porteur d'espoir pour tout le monde.
Les programmes courts aussi étaient emblématiques, je pense au service après-vente, bref, évidemment. Comment vous les sélectionniez à l'époque? Les gens vous envoyaient, vous proposaient des idées?
Bah bref, oui, je peux raconter l'histoire de bref. Effectivement, on a reçu de Kian Kojandi un projet de programme avec son producteur, et je suis allé tourner le premier pilote avec eux. Après, j'ai fait un rendez-vous, il le raconte, c'était au Flore, et il était au RSA, Kian, à ce moment-là. Il avait pas un rond, et quand on a déjeuné au Flore, quand on a pris simplement un jus d'orange au Flore, qu'il a vu le prix, il avait pas l'argent. Il le raconte, donc il écoutait même plus ce qu'on disait. Il disait, si c'est moi qui dois payer, je ne peux pas. Et voilà comment les
histoires basculent. Heureusement, Michel, vous avez quand même payé, rassurez-nous.
Et donc après, effectivement, on enclenche bref, et après sa vie bascule. Ah bah et oui. C'est ça qui est formidable, quoi. Ce sont que des vies qui basculent parce qu'il y a de la création, parce qu'il y a de l'audace, parce qu'il y a de l'envie et du travail. Et c'est vraiment des histoires incroyables, mais vraies.
Quelle est l'ambiance dans les coulisses du Grand Journal? Parce que toutes les réussites, on les voit, on les connaît, mais vous qui l'avez vécu, est-ce que c'était une émission où il y avait une bonne ambiance, tout simplement?
Les gens Oui. Enfin, moi, j'ai connu que ça. J'ai connu qu'une ambiance agréable où on travaillait de façon assez joyeuse, mais ça travaillait beaucoup. Et moi, chacun avait des responsabilités, beaucoup de liberté dans son travail, mais en même temps, il fallait livrer le produit, quoi.
Les Miss Météo aussi, autre marqueur du Grand Journal, des femmes jeunes, très belles, très drôles hein, aussi, il faut le dire. Est-ce que pour vous, c'est quelque chose de possible encore aujourd'hui d'avoir des Miss Météo comme ça, à une époque post-MeToo?
Oh oui, je pense, je vois pas où est le problème. En fait, les Miss Météo ont toutes réussi aujourd'hui. C'est Louise Bourgoin au cinéma, Doria Tillier au cinéma, Charlotte Lebon qui a fait qu'un an, mais qui est arrivée sachant même pas qui on était, du Québec. Qui a fait un an avec une audace folle et qui est repérée par Spielberg sur la météo du Grand Journal et qui après tourne dans des films de Spielberg.
Mais Spielberg regardait le Grand Journal.
Il y a quelqu'un qui s'est passé. En fait, la vraie histoire, il regardait pas le Grand Journal, mais quelqu'un lui a donné une sur Google a vu des vidéos de Charlotte et l'a montré à Spielberg et elle m'a montré des SMS de Spielberg quand j'ai fait le bouquin dans son témoignage qui lui envoie toujours des trucs sur son film Falcon Lake, le dernier film de Charlotte. Il lui reparle de la météo encore qu'il avait vu, quoi, donc
incroyable.
TMC organise le 13 novembre prochain, donc mercredi prochain, les 20 ans du Grand Journal et les 40 ans de Canal+. Ce sera présenté par Yann Barthès. Il y aura tous les autres chroniqueurs de la grande époque du Grand Journal ce soir-là?
Oui, il y a tout le monde est ou en plateau ou en magnéto, mais il y a aussi même Gad Elmaleh qui a été le parrain du début, et il y a Omar Sy qui passe,
vraiment tout le monde.
Il y a du monde, il y a un gros casting. On a passé un bon moment, ça va très vite, ça va 200 à l'heure, il y a des, je sais pas combien de tonnes de magnéto, d'histoires.
Le rythme de la télé a changé.
Oui, bien sûr. Le rythme, quand on a démarré Canal, on était la quatrième chaîne, ça veut dire qu'il n'y en avait que quatre, et les trois autres étaient un peu plan-plan, c'était le RTF de l'époque qui marchait bien, mais enfin bon, il n'y avait pas de compète. Et là, d'un seul coup, nous, quand on est arrivé, tout ce qu'on faisait, c'était nouveau, donc on était applaudi parfois quand ça ne valait pas, mais c'était nouveau. Et puis après, le monde, il y a eu 5, 6 et aujourd'hui, il y en a 100.
En 2004, le Grand Journal naissait et Clo-Clo renaissait.
La poésie, c'est plutôt Brassens, non?
Qu'est-ce que tu m'emmerdes avec Brassens, toi? Hein? Notre moustache qui ferait les couilles avec nouilles. J'ai perdu ma couille au fond dur. grave, hein.
Podium, le dernier truc bien qu'ait fait Yann Moix sortait sur nos écrans. On l'embrasse, bisous, bisous. Ainsi que d'autres films devenus cultes. À Harvard, un nerd un peu obsédé. Non, on l'embrasse pas, vous avez raison, mais non, c'est juste une façon de parler. À Harvard, un nerd un peu trop obsédé par les filles inventées Facebook. On continue notre voyage en 2004 avec Michel Denisot, juste après François and the Atlas Mountain, adoré sur Inter.
Ils vendent des vies de cire sous le soleil brûlant, les emballent d'un sourire, l'air si content. Qu'est-ce que l'on peut choisir sans avoir d'argent? Est-ce que l'on peut s'offrir au plus aimant? Tu ne peux pas les suivre au cas où. Tu ne sais pas les suivre au cas où. Retranchement sur le moment présent. Jusqu'au fond des songes, tu rêves de t'enfuir, de quitter leur honte, de fuir leur voix de sbire d'une tristesse immonde. Échappe-toi dans un rire, invente ton monde. Tu ne veux pas finir comme ces fous. À craindre le pire, on s'y fout. Tu ne sais pas les suivre au cas où. Tu ne sais pas les suivre au cas où. Rebranchement sur le moment présent.
Mathieu Noël sur France Inter.
En 9 ans, ça a été ma meilleure stagiaire. À un moment, j'ai même pensé à elle pour me remplacer à la présentation, mais finalement, ils ont opté pour Antoine Decaune, chez Melancer et Michel Denisot, hors antenne. Oui, Manon Mariani, vous avez visiblement laissé un souvenir impérissable au Grand Journal. Vous avez fait un stage en 2012. Mais avec vous, on reste en 2004, puisque vous nous racontez la naissance d'un réseau social emblématique.
En 2004, des étudiants de l'université d'Harvard se connectent pour la première fois sur un site internet qui va changer le monde. Il s'appelle The Facebook et son créateur est donc un élève de l'université, un certain Mark Zuckerberg. À l'époque, c'est un petit geek de 19 ans, un petit génie de l'informatique. Et avec sa bande de potes, plutôt que d'écumer les soirées pour rencontrer des filles, ils ont l'idée de mettre en place un trombinoscope sur Internet qui regroupe tous les élèves de l'université, d'où le nom Facebook qui veut dire trombinoscope. The Facebook se veut être une sorte d'annuaire de leur faculté censée les aider à mieux pécho. Ils avaient déjà fait un essai l'année précédente avec une version beaucoup plus sexiste, Face Match, où il fallait noter les filles de l'université, un carton, mais de courte durée, puisqu'il a été interdit au bout de 2 jours. The Facebook est donc une version plus soft. Pas question pour son créateur de se faire bannir à nouveau. Son site est très sobre, de couleur bleue, car c'est la seule couleur qu'il voit bien, parce que Mark Zuckerberg est daltonien. Et oui. Sur le site, chaque élève peut donc se créer un profil avec ses informations, mettre en ligne des photos, créer des groupes de discussion et surtout avoir des amis. À l'époque, c'est totalement novateur et dès le premier mois, la moitié des étudiants d'Harvard sont inscrits sur The Facebook. Les médias commencent même à s'y intéresser alors que le site n'est disponible que dans la prestigieuse université américaine. Mais Mark Zuckerberg a déjà d'autres ambitions. Il le dit à la chaîne américaine CNBC dès février 2004.
Who knows where we're going next? We're hoping to have many more universities.
Qui sait où tout ça nous mènera? On espère toucher de nouvelles universités. Mark Zuckerberg a déjà l'âme d'un entrepreneur. La preuve, dès le mois suivant, The Facebook s'exporte dans d'autres universités. Et fin 2004, le site est accessible à toutes les universités des États-Unis et du Canada. Mark Zuckerberg établit le siège social de son entreprise en 2005 à Palo Alto et décide d'enlever le « the » de son site. Facebook est né. En parallèle, deux anciens étudiants d'Harvard, les frères Winklevoss, accusent Mark Zuckerberg de leur avoir volé leur idée pour créer Facebook. Le litige se résoudra 3 ans plus tard via un accord. Zuckerberg leur versera 65 millions de dollars. Une grosse somme, mais qui ne représente pas grand-chose pour ce cher Mark Zuckerberg, car en 2008, il est déjà milliardaire. La raison, Facebook est devenu plus qu'un simple site pour les universités. 2 ans après sa création, il est devenu accessible à tout le monde. Il suffit d'avoir plus de 13 ans pour se créer un compte sur le site qu'on appelle petit à petit réseau social. De nouvelles fonctionnalités sont ajoutées, le POC, le fil d'actualité, l'application mobile et la fameuse messagerie instantanée. En France, Facebook arrive en 2007 et c'est une vraie révolution. Ce qui plaît le plus aux Français quand on voit les reportages sur le sujet, c'est le fait qu'ils puissent retrouver des gens qu'ils connaissent.
J'ai retrouvé des amis de vraiment de maternelle, quoi, que j'avais pas vu depuis au moins 15 ans et j'avais perdu toute trace d'eux et du coup c'est vraiment sympa pour ça.
Ce qui est drôle, c'est que c'était aussi le principe du site français Copains d'avant, créé en 2001.
Qui existe toujours, j'y suis.
Malheureusement pour eux, quand Facebook est arrivé, ça a écrasé toute concurrence. Et puis niveau chiffres, Facebook enregistre une progression exceptionnelle en termes d'utilisateurs. En 2008, ils sont 100 millions. 4 ans plus tard, ils sont 1 milliard. On est en 2012 et c'est l'année où Zuckerberg rachète une petite application de photos, Instagram. 2 ans plus tard, il se paye aussi l'application de messagerie WhatsApp. Entre-temps, il a aussi tenté de racheter Snapchat, cette fois-ci sans succès. Dans The Social Network de David Fincher, il y a une phrase prononcée par Justin Timberlake qui joue le rôle du patron de Napster dans le film, qui résume assez bien ce que représente Facebook aujourd'hui.
On vivait dans des fermes, après on a vécu dans les villes et on va finir par vivre sur Internet.
Jeanne, arrête!
Et il a entièrement raison. Aujourd'hui, plus qu'un réseau social novateur, Facebook est un véritable empire qui s'appelle maintenant Meta. Le groupe cumule 3,2 milliards d'utilisateurs actifs sur toutes ses plateformes.
À noter que la voix de Justin Timberlake est beaucoup plus sexy en anglais qu'en français.
Ça m'évite une traduction.
Il perd un peu de son charisme à la traduction, le Justin. Merci beaucoup. Manon, Michel Denisot, vous vous rappelez de l'arrivée de Facebook en France? Vous aviez un compte?
Non, j'ai pas de compte Facebook, non.
Et vous en avez jamais
non,
eu?
Non, je suis sur Instagram et X, mais pas sur Facebook.
Mais vous avez reçu Mark Zuckerberg, par contre?
Oui.
Il sait que vous êtes pas sur Facebook, il serait pas venu sinon.
Oui, il est venu quand même, il a essayé de me convaincre, mais il est pas arrivé. Mais comme quoi, on peut pas tout réussir.
Vous êtes sur X?
Oui.
Vous êtes posé la question d'y rester avec l'arrivée d'Elon Musk?
Oui, un peu. J'ai mis un jour une truc désagréable pour Elon Musk pour voir si j'allais être... Il l'a pas lu.
Ah, voir si vous allez être banni, modéré.
Michel Denisot n'aime pas les anniversaires, mais quand il a un bouquin à vendre, il fait un petit effort. évidemment. Toute première fois, c'est le titre de votre dernier livre. Ils ont tous commencé sur Canal. On a parlé des stars et des chroniqueurs qui ont fait l'histoire du grand journal, mais il y a aussi eu les politiques, notamment en 2007, quand vous proposez aux candidats à la présidentielle d'être les rédacteur en chef d'un jour de l'émission. Alors ça, c'est vrai que sur le papier, c'est une très bonne idée. Est-ce que ça fonctionnait pour tous? Est-ce qu'il y en a qui vous ont
épaté? Oui, parce qu'on arrivait sur une génération de candidats qui étaient, vous êtes très tenté de dire, des enfants de la télé, qui sont nés avec la télé. C'est, avec ceux d'avant, ça n'aurait jamais marché. Jacques Chirac n'était pas à l'aise, Mitterrand, je pense qu'on n'aurait jamais fait, etc. Mais là, que ce soit Nicolas Sarkozy, Ségolène Royal ou d'autres, bon, Bérou était moins à l'aise, mais globalement, oui.
D'un point de vue journalistique, quel regard vous portez sur ces séquences? Un an avant 2007, Jamel Debbouze faisait danser Ségolène Royal lors d'un live de Diams. Elle finissait par lâcher qu'elle serait candidate à la présidentielle.
Écoutez, c'est bien que vous parliez de cette séquence, ça me fait plaisir, parce que pour moi, c'est la meilleure séquence de ce que j'ai fait. Parce qu'on cherche toujours à faire le mélange des genres, ce qui est très utopique dur. Et qui ne marche jamais vraiment. Personne n'est vraiment content, c'est toujours aux dépens l'un de l'autre. Et là, ça a été un instant assez magique, en une minute. Bon, Diams, qui était à l'époque était au sommet, chante, il y a Ségolène Royal qui est candidate, Jamel qui est à côté, et il arrive à faire danser Ségolène Royal, ce que François Hollande n'a peut-être pas... Pardon, non, Et donc, il fait danser Ségolène Royal, et il arrive à lui faire dire qu'elle est candidate, alors qu'elle n'avait pas prévu du tout de le dire ce jour-là.
Il y a de la spontanéité comme
ça. Oui, donc c'était vraiment exceptionnel. J'ai dit à Jamel il n'y a pas longtemps, je dis pour moi, la meilleure minute, c'est toi, quoi.
Michel, vous quittez Le Grand Journal en 2013. Le Grand Journal va vous survivre, notamment avec Antoine Decaune. Pourquoi vous avez quitté la présentation de l'émission?
La neuvième année, je commençais, tous les jours, je me disais que j'avais de la chance de faire ça, très franchement. La première année, on a ramé, la deuxième année, ça a commencé à marcher, puis après, ça a suivi. Et la neuvième année, je commençais, j'avais des rituels, je mettais beaucoup, quand il faut être en forme le soir à 19h, c'est pas normal. Donc, je m'étais inspiré du monde du foot dans lequel j'ai vécu, c'est-à-dire que les joueurs jouent le soir, et il faut être en forme le soir, alors qu'en général, le soir, on est un peu moins bien que le reste de la journée.
Vous faisiez quoi, une grosse sieste?
Comment?
Vous faisiez des grosses siestes?
Non, je faisais pas de sieste, mais j'avais une diététique qui correspondait, je déjeunais légèrement. Une collation à 17h, et je rentrais sur le terrain, si je puis dire, à 19h00 tous les soirs. J'étais maniaque de ça, j'étais devant le chronomètre dans la coulisse, et je rentrais pile, et ça commençait à 19h10, et tous les soirs, je m'asseyais en disant, j'ai de la chance. Et donc, et puis la neuvième année, je commençais à me dire, tiens, lui, ça fait 4 fois qu'il le reçoit. Des trucs comme ça, donc, il y avait un petit peu moins de... Donc, il faut avoir une envie démesurée pour être dedans à 100% tout le temps. Et là, l'envie commençait à s'émousser. Puis après, on m'a proposé en même temps de démarrer Vanity Fair en France, qui était pour moi une chose qui me plaisait énormément. Donc, voilà.
Est-ce que l'aventure Canal+ s'écrit aujourd'hui au passé? Il y a une forme de nostalgie, moi, parfois dérangeante, lorsqu'on parle de Canal+, de la belle époque.
Ben, c'est vrai dans la vie pour tout, en fait, ce que vous dites. C'est vrai pour tout. C'est vrai pour les nostalgiques de Saint-Étienne en football. C'est vrai pour tout. Le monde change, les entreprises changent. Il y a des propriétaires qui changent. Ils en font ce qu'ils veulent. Qu'est-ce que vous voulez dire d'autre à part ça? Qu'effectivement, c'est différent. Mais voilà, que...
C'était mieux avant ?
Non, j'aime pas cette expression. Okay. C'était différent.
Et c'était différent et ça vous ressemblait plus, peut-être ?
Oui, on a la chance parfois dans nos métiers d'être au bon endroit au bon moment. Et c'est comme la minute de Jamel et tout. C'est à un moment donné, on n'y est pas vraiment pour quelque chose, mais on est là au bon moment et ça correspond à ce qu'on est et on correspond à ce qui est attendu. Donc c'est ce qu'on a pu connaître.
Et Michel, est-ce qu'aujourd'hui, quand vous regardez la télé, je ne sais pas d'ailleurs si vous regardez beaucoup la télé.
De temps en temps, oui.
Est-ce qu'il y a une émission où vous dites ça, j'aurais aimé le présenter ou avoir eu l'idée ?
Moins, parce que j'ai eu mon compte, quoi. Personnellement, je cherche pas à en refaire du tout, bien au contraire. Des émissions que j'aimerais présenter. Il y a des gens qui travaillent très bien, je suis admiratif du travail, quoi. Par exemple, Augustin Trapenard travaille très très bien sur la grande librairie, il fait un gros boulot. Je le suis sur des livres que je lirai pas forcément, parce qu'il travaille. J'aime beaucoup le travail je vois assez vite dans les interviews, parce que j'en ai fait un paquet, si les gens ont travaillé ou pas travaillé. Donc moi-même, ça m'est arrivé de travailler ou de ne pas travailler. Et là, par exemple, je vois que vous avez plutôt travaillé.
Plutôt travaillé. Vous mettrez peut-être un petit 13 sur 20, un petit 14 sur 20.
Je mettrai plus.
Oh, vous mettrez plus. C'est très bien. Je rappelle le livre. Michel Denisot, toute première fois, ils ont tous commencé sur Canal et c'est chez Flammarion.
Nos 19, c'est combien? Alors vous avez une...
le prix 22 euros. Ouais. C'est quasiment donné, Michel, quand on sait le nombre d'anecdotes qu'il y a là-dedans. Ouais. Dernière question, Michel, parce qu'on ne peut pas ne pas vous la poser. On comprend que vous n'êtes pas nostalgique, que vous êtes un homme qui regardait vers demain. Néanmoins, Canal+, est dirigé aujourd'hui par Bolloré. On parle beaucoup de ça, du changement d'orientation, de la ligne éditoriale. Certains restent, comme Antoine Decaune, qui disent que non, on est toujours libre au sein de Canal+. Néanmoins, la question se pose. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, quand vous regardez les programmes de cette chaîne aujourd'hui?
Disons que nous, on a créé une chaîne en 84, qui était une chaîne de télévision, en lui donnant une identité au fur et à mesure avec ceux qui ont fait l'image de Canal. Aujourd'hui, c'est plus une plateforme de diffusion qu'une chaîne de télévision, voilà ce que je pense. Et donc, c'est un produit, c'est une grande surface qui vend du sport, qui vend du cinéma, et les émissions elles-mêmes n'ont pas une valeur ajoutée. Voilà, donc c'est différent.
On aura compris que l'esprit Canal est mort. En 2004, celui qui est le chaînon manquant entre Marlon Brando et Jean Lefebvre pleurait ses deux mentors. C'est pour ça que j'ai demandé à Thomas Croisière de nous raconter ce qu'était 2004 au cinéma.
En 2004, sur grand écran, je tombe amoureux, comme Bill Murray, de Scarlett Johansson dans Lost in Translation, ou en québécois, traduction infidèle. Elle a 20 ans, j'en ai 30, elle est certes intermittente du spectacle, mais à l'époque j'ai une situation, puisque je travaille pour notre invité, Michel Denisot, alors directeur général du groupe Canal+. Comme moi, elle est blonde, comme moi, elle est belle, et comme moi, elle aime karaoké. Pas de taratata, Scarlett. Depuis le film de Sofia Coppola, dans lequel Bill et toi êtes perdus dans la traduction, mais aussi dans Tokyo, vos vies et vos couples, je sais que nous sommes, comme deux chats, faits l'un pour l'autre. Alors laisse-moi, comme Bill, te proposer More Than This. I could feel at the time that there's no way of knowing
fallen leaves in the night.
Et j'aimerais tant savoir ce qu'à la fin du film Bill Murray te murmure à l'oreille, car même la réalisatrice oscarisée pour son scénario ne le sait pas. C'est une improvisation de l'acteur qui nous laisse en suspens. Mais mon problème, c'est qu'en 2004, je suis toujours dans mon histoire d'amour avec Uma Thurman.
Ah, là, oui.
16 ans que ça dure depuis son apparition en Vénus Botticellienne dans Les Aventures du Baron de Munchausen de Terry Gilliam. Elle a 34 ans, j'en ai 30. Comme moi, elle est belle. Comme moi, elle est blonde. Et comme moi, elle est badass. Je me souviens, lorsque j'ai partagé Kill Bill avec mes deux garçons, qu'à la fin, ils m'ont dit « C'est sûr qu'il y a un 2, mais évidemment, gosse de con, qu'il y a une suite. » Le diptyque de Quentin Tarantino, en québécois, s'appelle « Tu es Bill ». Et à la fin du volume 1, il est toujours vivant, David Carradine. Et puis surtout, il se concluait sur
« Est-ce qu'elle sait que sa fille est vivante ?»
Et la flûte de pan de Georges Zamfir. La même que l'on entend dans La chèvre. Mais oui. Et celle qui, en 2004, est aussi très belle, c'est Kate Winslet. Quelle que soit sa couleur de cheveux, car ils iront du bleu au rouge dans Eternal Sunshine of the Spotless Mind, ou en québécois, du soleil plein la tête. Une tête au carré, puisqu'elle partage l'affiche avec Jim, qui n'est pas le frère de Maria. Ah, non, Ghislain, c'est notre réalisateur, pas après tout ce que tu as fait. Non, mais... Et puis le film de Michel Gondry ne débute pas à Noël, mais à la Saint-Valentin, quand Joël se rend compte que son ex Clémentine l'a totalement effacé de sa mémoire. Mais je ne vous en dis pas plus, car ce bijou de dramédie romantique est, quand on a vraiment aimé, des films qu'on ne peut oublier.
Change your heart. Look around you. Change your heart, it will astound you. And I need your loving like the sunshine.
Vive le soleil, l'amour et
vive le cinéma
de 2004.
Merci Thomas Croyer. Vous avez eu le respect de ne pas chanter. C'est rare, vous avez dit de vous
accompagner.
On attendait votre solo final.
Car non. Ce film me meut.
On vous sent troublé. Merci beaucoup.
Comme votre t-shirt.
Oui, il faut dire que si vous nous suivez en vidéo, ce qui n'est pas possible, je crois, aujourd'hui, pour une raison technique, un certain t-shirt intéressant qui reprend, disons, l'esprit canal, vraiment très, très, très.
Plus.
Très, très plus.
Canal sensé, on peut le dire.
Canal sensé. Qu'est-ce que ça donne, canal sensé, Manon ?
Je ne le dirai pas.
Voilà, mais on le devine. Thomas, comme vous avez bien travaillé, que vous avez de très beaux yeux bleus. Une petite promo, vous jouez votre spectacle Voyage en comédie le 10 à Étampes et le 12 au Pont de Singe à Arras.
Eh oui, le 62.
Exactement, et vous êtes toujours au Lucernaire, évidemment, à Paris, les vendredis et samedis. Tout à l'heure, Charles Nouveau nous racontera un petit peu son rapport au Grand Journal. Comment ça se présente, cher Charles ?
Eh bien, écoutez, Mathieu, je n'ai pas dormi depuis que Donald Trump a remporté l'Iowa. Donc, ça s'annonce un peu lunaire.
La chronique de Charles Nouveau, c'est dans Zoom Zoom Back, juste après un autre tube de 2004, Beau Dimanche, Amadou et Marianne sur France Inter.
Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako, c'est le jour de mariage. Les dimanches à Bamako. maman, c'est le jour de mariage.
France Inter, Zoom Zoom Zen.
Quand il était petit, Charles Nouveau avait Canal+ à la maison, alors que Canal+ n'était officiellement pas diffusé dans le pays où il habitait. Ça vous en dit long sur l'absence totale de morale des gens qui l'ont élevé. Qu'est-ce qu'il pensait de feu le grand journal, mesdames et messieurs, Charles Nouveau?
De toute façon, en tant que Suisse, je ne suis pas complètement objectif par rapport à Canal, Mathieu Noël. La Suisse et Canal+, on a le même logo, hein, tout simplement. Le plus, positif, par définition. On comprend mieux toute la jovialité et le charisme qui émanent de ces entités à travers les époques. Côté Canal, il paraît que Bolloré a tenté de faire légèrement modifier le plus pour honorer le Nouveau Testament. Mais les graphistes ont su tenir bon. Les symboles, c'est important. 40 ans, par exemple, c'est symbolique. Probablement inoubliable, même, le cap des 40 ans. Cyril Lacarrière, notre rédacteur en chef, s'en souvient très bien de cette étape de sa vie, alors qu'à l'époque, la plupart d'entre nous apprenions encore à écrire en attaché. Mais le Michel pauvre. Denisot, lui, quand il fête les 40 ans, ça le rajeunit. On se moque souvent de l'âge de Michel Drucker et pas du vôtre, alors que sur vos cartes d'identité, c'est pratiquement le même. Voilà ce qui se passe quand d'un côté, on s'entoure systématiquement d'une jeunesse talentueuse et que de l'autre, on traîne avec Alex Vizorek. Comme Drucker, on oublie que vous étiez à vos débuts commentateur sportif, Michel Denisot. Je vous aime encore plus pour ça. La toute première fois que je suis monté sur scène, j'avais fait un sketch sur les commentateurs. L'ironie a voulu que dans la salle, il y avait un des mecs que j'imitais. Il m'a ensuite fait passer des tests et je suis devenu moi-même commentateur sportif à la télé pour de vrai, contre de l'argent. Comme tout le monde dans le studio, je suis très curieux de ce que l'avenir me réserve après mon sketch de la semaine dernière sur la présidence américaine. Grand intervieweur, Michel Denisot, vous êtes tellement fort pour faire parler les autres d'eux-mêmes. Il n'en fallait pas beaucoup plus à mon narcissisme pour se sentir à l'aise. Au Grand Journal, vous animiez ce qui était alors le temple du cool à la télé. Vous avez marqué ma génération. Espiègle mais discret, vous étiez la force tranquille au milieu du magasin de farce et attrape. Vous sublimiez vos collaborateurs plutôt que de leur voler la vedette. Mathieu Noël a encore tellement de choses à apprendre. Évidemment, la télé, c'est des cycles. Un jour, le petit journal dépasse le grand. Maintenant qu'on vous a en face de nous, en personne, on peut le dire sans crainte, en dehors de la télévision, Yann Barthès ne vous surplombera jamais. Je ne sais pas pour les autres, mais perso, j'avais aucune idée qu'il était aussi grand, Michel Denisot. Pourtant, il y avait des pistes. Hein, vous en parliez tout à l'heure, le grand match, la grande famille, le grand journal. Il y avait de quoi se méfier. Je crois qu'on a le même problème, vous et moi. On a des têtes de petits, Michel. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé Tinder, mais ça peut être un handicap. Hein. Faites attention. Je ne sais pas si vous avez déjà pris un EasyJet non plus, mais si un jour vous tentez l'aventure, prenez une place à côté de la sortie de secours. Hein, pour le bien de vos fémurs, il faut vous préserver, Michel. Je ne sais pas si vous en rendez compte, on a de moins en moins de Michel dans ce pays. Les Michel, c'est une spécialité française. On en a sorti des incroyables. Audiard, Berger, Polnareff, Drucker, Azanavicius, Gondry, Foucault, Houellebecq, Le Grand Vaillant ou Platini. Les Michel, c'est notre patrimoine. Je pense qu'il n'y a pas un Français qui ne vous met pas dans son top 10, monsieur Denisot. On vous adore. En 2016, je devais intégrer le Grand Journal avec une capsule humoristique. Et même si vous n'y étiez plus, c'est l'image que je m'en étais faite avec vous qui m'en donnait le plus envie. Finalement, Canal n'a jamais diffusé ma capsule. Je ne suis pas dans le bouquin. Et l'émission s'est arrêtée quelques mois plus tard seulement Vincent Bolloré en tire ses propres conclusions. En attendant, je révise mon catéchisme, au cas où. Merci beaucoup d'être venu nous voir, Michel Denisot. J'ai lu qu'aujourd'hui, vous aviez une petite émission sur France 3, Centre Val-de-Loire. Non, c'est plus le cas. Ok, je suis complètement à côté de la plaque.
Ça n'a jamais été le cas.
Ah, bah, autant pour moi.
Non, mais c'est une info qui est sortie. J'ai appelé Télérama pour dire que c'est pas vrai. Et ils n'ont rien changé.
Ah, bah, écoutez, j'étais en train de me dire que je choisissais vraiment bien les invités à qui je faisais de la lèche. Belle soirée, bon week-end et...
Désolé.
Merci beaucoup.
Quelle imitation. Merci Charles Nouveau. Et je précise qu'on vous retrouve la semaine prochaine dans Zoom Zoom SAS, évidemment.
Évidemment.
Les auditeurs le savent. Mais ce qu'ils ne savent peut-être pas, c'est qu'on vous retrouve aussi sur scène le samedi à Paris.
Quasiment tous les samedis à Paris.
Quasiment tous les samedis. Il faut juste tomber sur le bon samedi.
Tout à fait. Il y a du flair, il y a du flair.
Exactement. Merci beaucoup Michel Denisot d'avoir feuilletonné l'album Souvenirs du Grand Journal et de 2004 avec nous. Je rappelle votre livre, toute première fois, ils ont tous commencé sur Canal. Un dernier mot, parce qu'on n'en a pas parlé, du PSG. Est-ce que Alors, je vous avoue quelque chose, Michel, on s'entend bien tous les deux, mais il y a un truc qui nous sépare, c'est quand même que moi je suis un fan de l'OM, vous êtes évidemment pour le PSG. Est-ce que vous pensez que votre PSG va un jour remporter la Coupe d'Europe, la vraie?
Alors, c'est pas mon PSG, j'ai pas les moyens.
Le PSG que vous avez tant aimé.
Ouais, non, mais j'ai été 7 ans au PSG, effectivement, quand Canal a racheté le PSG. Donc
plus gros palmarès en tant que président avant les Qataris.
Merci. Merci, oui.
Mais oui, bah oui.
Ils ont gagné
pour beaucoup, beaucoup, pour beaucoup moins cher. Et maintenant je suis spectateur. Hein, je suis pas.
Vous êtes spectateur un peu plus. Vous avez un avis sur ce qui se passe au PSG.
Oui, mais quand on n'est pas dedans, j'ai suffisamment vu quand j'étais dedans que les gens de l'extérieur avaient un avis où ils manquaient de savoir ce qui se passait vraiment pour avoir un avis intéressant. Donc je suis spectateur. Je regarde les matchs. Voilà. Quand
spectateur, regardez. Mais vous êtes fan ou pas du PSG?
Oui, je suis fan du PSG. Je suis fan de foot. Enfin, je peux regarder, prendre du plaisir à regarder un match de l'OM.
Ah, ça, c'est une excellente réponse.
Mais s'il est bon, ce qui était...
Oui, bon. C'était la punchline de fin de Michel Denisot. Merci encore, Michel. Je rappelle votre livre, Toute première fois. C'est disponible chez Flammarion. Merci à tous, les amis. Manon, Quentin, Charles, Thomas et tous ceux qui nous aident à préparer cette émission en régie. Capucine Aubert, Gérald Darnaud, Alexis Lacour, Pierre Courade et bien sûr nos stagiaires, Romain Bonifaci et Valentin Gelsomino, qui peuvent en être sûrs. Si d'aventure, dans 20 ans, je les recroise sur un plateau, je me souviendrai parfaitement de qui ils sont et de tout ce qu'ils ont fait pour moi. Mais dans le doute quand même, si ça arrive, rappelez-moi à antenne vos prénoms d'abord. À la réalisation, c'était Ghislain Fontana, à la technique Philippe Duclos. Zoom Zoom Zen revient lundi en direct. On zoomera sur ce qui va être la grande priorité de Donald Trump, sa véritable obsession, la COP29, avec un Trumpiste de la première heure, François Gémen. Zoom Zoom Zen.